découvre un monstre dans sa chambre, elle n'a pas peur du tout. C'est vrai qu'il est grand, qu'il est fort et qu'il sent des pieds. Mais il sait faire des bulqueurs avec ses fesses et surtout, il fait des câlins tout doux. Alors, entre Lily et Doudou Monstre, c'est tout de suite un roman d'amitié qui commence. Et si c'est dur à accepter pour les parents, pour les amis et surtout pour le chat de la famille, ce n'est pas grave. Parce qu'un copain, comme celui-là, on n'en trouve pas tous les jours. Aujourd'hui, je reçois Michel Rieu, dit Mick. Alors, est-ce qu'on doit vous appeler Mick ou Michel ?
Mick.
Mick. Donc, pour Lily et les Doudous Monstres, qui est une BD, tout en douceur, 100% humour, écrite et dessinée par vous.
Oui.
Mise en couleur.
Oui, par Val.
Par Val. Et qui convient, évidemment, au bonheur des enfants, mais aussi au bonheur des parents.
Oui, je la qualifierais de vraiment bande dessinée tout public.
Tout public, même les grands-mères, tout le monde s'y retrouve. Vous nous parlez un petit peu de vous, Mick ?
Alors, je suis auteur de bande dessinée, scénariste et dessinateur. Je suis également enseignant dans une petite classe de CP, CE1, dans un petit village du Haut-Canton de l'Hérault. Je suis également directeur de collection pour une maison d'édition, les éditions PEMF, parce que je crée aussi des outils pédagogiques pour les écoles.
Il y a une approche très, très psychologique de cette petite fille et de son rapport avec le doudou. C'est devenu d'une observation de vos enfants, sachez que vous avez deux filles.
Oui, j'ai deux filles et puis je côtoie des enfants à longueur de journée. Donc, quand j'ai créé les personnages, je voulais vraiment que ce côté sentiment ressorte. Je voulais pas juste du gag visuel, un peu gratuit, même si l'album, y en a quelques-uns aussi à l'intérieur, hein. Mais je voulais aussi quelque chose de l'ordre du relationnel et de l'affectif entre les personnages.
Pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire ?
J'étais parti sur une petite fille parce que, voilà, ayant deux filles, je trouvais que les personnages féminins n'étaient pas encore assez mis en valeur. Et je la voulais pétillante, je la voulais vivante, loin du cliché de petite fille qu'on peut se faire. Hein. Quoi de mieux qu'un espèce de monstre un peu grand, pâteau, pour servir un peu de faire valoir à cette petite fille.
D'ailleurs, c'est vraiment l'histoire du couple qui est racontée. C'est pas l'histoire de Lily, c'est vraiment l'histoire de Lily et du doudou monstre. Il n'y a quasiment pas de vignette où ils ne sont pas ensemble.
Oui, c'est ça. Je pense qu'au début, même en commençant à créer la bande dessinée, j'étais presque parti dans l'idée qu'il n'y aurait pas d'autres personnages. Et puis, ça s'est enrichi petit à petit parce qu'il fallait aussi que cette petite fille vive dans un contexte familial. Et donc, les autres personnages sont arrivés progressivement. Mais vraiment, au départ, c'est parti d'un duo, quoi.
Le doudou, d'une façon générale, je ne sais pas de quand ça date. Parce que j'ai l'impression que quand j'étais enfant, on n'avait pas de doudou.
Alors j'en avais un, moi, tout petit. C'était un ours blanc. C'était pas un vrai doudou comme on peut le voir maintenant où les enfants vont à l'école même avec, hein, qui sert de transition un petit peu entre le milieu, le monde de la famille, des parents, et puis le monde extérieur. Je ne le daterai pas, hein, je ne sais pas, mais je sais que c'est un objet important pour beaucoup d'enfants.
C'était longtemps un chiffon, presque un torchon. Ouais. Maintenant, c'est devenu des jolis doudous qui coûtent très cher dans les magasins de jouets.
Oui.
Mais je crois que c'est dans Charlie Brown, dans Peanuts, il y a un petit garçon qui a toujours un mouchoir très,
oui,
très sale.
C'est ça, exactement.
Non, là, c'est pas un mouchoir sale, c'est un vrai personnage, hein, qui a une épaisseur d'ailleurs physique,
oui,
qui a l'air de déranger personne dans cette famille d'ailleurs, hein, des espèces de gros monstres partout, mais c'est le doudou monstre, c'est une entité, mais...
Oui, c'est ça, c'est qu'il a été très vite accepté, finalement, ça a pas, on met pas beaucoup d'histoire là-dessus, finalement, parce que c'était pas le... Très vite, il fallait que de toute façon, il intervienne dans cette famille avec cette petite fille, et du coup, on s'est pas trop pris la tête avec comment ça va se passer au début, etc. Donc très vite, l'acceptation a été faite. Et cette petite fille, alors c'est un personnage qu'on pourrait presque à un moment donné qualifier d'imaginaire, mais bon, qui est bien dans le réel, puisqu'il accompagne même à l'école à un moment donné.
Ah oui, voilà. il écrase le chat, il casse les haies du voisin, enfin il a vraiment une existence.
Voilà. Mais sans méchanceté, il est juste vraiment maladroit, pataud, avec sa propre psychologie, oui.
Très peureux.
Oui, peureux, il craint beaucoup de choses.
Le sang, parce qu'elle est intrépide au contraire, contrairement à lui, elle est très intrépide, hein, elle y va. D'ailleurs, tout au début du livre, il y a une scène où, on dit toujours que les enfants aiment jouer à se faire peur.
Oui.
Et quand elle a compris qu'il était pas méchant et qu'elle avait rien à craindre de lui, bah ça l'intéresse plus tellement là. Hein, faut...
C'est ça, c'est-à-dire que la première rencontre où, final un petit peu, où on se dit une petite fille qui rencontre un monstre, elle doit avoir forcément peur de lui, donc elle lui dit je suppose que tu vas me faire du mal, etc. Et lorsque le doux du monstre lui répond que non, au contraire, il va lui faire plein de petits bisous et de câlins, etc., elle est presque déçue, justement, oui.
Et quand il ouvre fort la bouche, ah la carie, non je veux pas, j'ai de dentiste,
oui.
Alors elle veut échanger son sang, ah non, pas de sang, ils arrivent à avoir tous les deux peur d'une tortue quand même.
Oui, elle se rend compte qu'elle existait déjà au temps préhistorique, et donc elle avait déjà affronté les T-Rex, donc c'était peut-être un animal effrayant, oui.
Mais c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure du couple que ça représente, j'ai pas pu m'empêcher, bon, on parlait en off des sisters où il y a la petite sœur, la grande sœur, mais surtout de Bébil où il n'y a pas une image sans Boule, sans Bill. D'ailleurs, je suis sûre que si on posait la question, peu de gens sauraient dire qui est Boule et qui est Bill. Parce que c'est...
Il y a toujours une hésitation sur les noms, c'est
vrai. Il y a toujours une hésitation.
Oui.
Mais là, toute l'histoire est tout le temps articulée autour de deux.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'on pourrait aussi le rapprocher un petit peu de Calvin et Hobbes, qui est une BD qui m'a beaucoup justement marqué par ce côté très...
C'est un chat, c'est ça, non ?
C'est un tigre. C'est un tigre. Et alors, pour le coup, lui, il est vraiment imaginaire, parce que quand les parents le voient, il est vraiment en peluche. Et il n'y a que lorsqu'il est avec le petit garçon qui prend vie. Mais c'est ce côté sentimental, en fait, que je trouvais vraiment... attendrissant dans cette bande dessinée que je voulais retrouver dans Lily et Doudou Monstre. Oui.
Est-ce que ce Doudou Monstre, ce qui est très troublant et très attachant, c'est qu'on sait que dans la réalité, un doudou, c'est petit.
Oui.
Mais de l'avoir représenté très gros dans la BD, ça fait qu'il est très gros dans le cœur des enfants. C'est beau, je trouve, de l'avoir mis en dessin, ce sentiment-là.
C'est ça. Il a quand même un côté de protection, qu'on retrouve d'ailleurs sur la couverture, puisqu'il enserre Lily dans les bras, comme s'il voulait la protéger. Et c'est aussi un peu le rôle d'un doudou, hein, qui est de... lorsque l'enfant s'éloigne un petit peu de ses parents et qu'il a besoin d'être rattaché à quelque chose, le doudou lui apporte ce côté affectif. Et dans l'histoire, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est intrépide, etc., mais elle a quand même besoin, évidemment, de câlins, d'attachement et d'affection.
En tant qu'institut, il y a encore des enfants qui viennent au primaire. Il n'y a plus de doudou.
Non.
Même coincé au fond du cartable
Je dirais que ça dépend aussi de leurs circonstances de vie. Il peut y avoir, à certains moments donnés de leur vie, où ils vivent une séparation des parents, où on sent que d'un coup, l'aspect affectif reprend une place plus importante. Ouais.
Vos deux filles, elles en ont eu toutes les deux, des doudous ?
Non.
Non.
Non, non, non.
Non, c'est bon, il y a des enfants sans tutute, des enfants sans doudou, des...
Oui, je pense qu'elles devaient avoir une tétine petite, mais je pense qu'elles s'en sont vite débarrassées. Je n'ai pas ce souvenir-là de quelque chose qui a duré longtemps.
Mais j'étais dans un magasin, j'ai travaillé très longtemps en librairie, et il y avait des fois des enfants qui oubliaient leur doudou. Mmh. C'est un drame, il y a des rapatriements de doudous, il y a des histoires dingues sur les doudous qui... à travers le monde, des doudous oubliés, retrouvés dans des endroits absolument incroyables.
Oui, de mémoire, je crois qu'il y avait même un site... qui répertoriait tous les doudous perdus et où les gens pouvaient aller essayer de récupérer le doudou.
Mais c'est vrai que quand on balade dans une rue et qu'on trouve un doudou, il n'y a pas une année sans que ça ne nous arrive pas, on est dans une rue commerçante et il y a un doudou qui est tombé de la poussette, c'est toujours quelque chose d'émouvant. On aurait envie de le mettre bien dans la rue pour qu'au passage... tout ça transparaît beaucoup dans la BD, la force affective entre l'enfant et le doudou.
Tant mieux, parce que c'était vraiment notre souhait, ce qui n'est pas toujours facile. facile à rendre quand on travaille sur des gags, parce qu'il faut, il faut aussi que l'histoire, même courte, soit au moins tire un petit sourire ou voir un rire de la personne qui le lit. Et en même temps, voilà, et conserver ce côté quand même affectif qui est pas toujours facile à rendre en dessin. Donc, bon, bah, tant mieux si c'est ce qui ressort.
On en parlera en deuxième partie d'émission. Et c'est vrai que la construction, elle est super, je trouve, pour les enfants. C'est que c'est des, c'est des planches de 4 vignettes. Je sais pas si c'est les termes.
Oui, c'est ça. C'est des demi-planches, en fait. Demi-planches.
Avec à chaque fois une toute petite histoire, mais par contre... C'est pas, ils sont pas dissociés les uns des autres, c'est-à-dire que vignette après vignette, on retrouve, ça continue l'histoire.
Oui, en tout cas, le début de l'album est, est parti comme ça, c'est-à-dire effectivement, on voulait qu'il y ait un fil rouge entre les différents gags. Après, il y a quelques gags complètement indépendants, hein, surtout vers la fin de l'album. Le lien, c'est souvent le moment où ça se passe, à l'école ou selon les saisons. Mais au début, effectivement, c'est construit comme une espèce de fil rouge.
C'est-à-dire qu'il y a tous les personnages qui arrivent. Il y a l'arrivée du père, l'arrivée du voisin, l'arrivée du chat. Voilà. Tous les personnages qui entrent, c'est à chaque fois une petite histoire différente. Et on évolue, on commence à bien connaître Lily à la moitié de l'album, en définitive. Dans c'est ses... Parce qu'ils ne sont pas tous les deux. Moi, ça m'a étonné vraiment le peu de... d'étonnement de la famille et de l'entourage sur ce doudou qui arrive comme ça. Donc c'est ça qui, en tant que regard d'adulte et lecture d'adulte, nous fait bien comprendre que ce doudou, c'est un symbole aussi, enfin cette grosse masse.
Oui, c'est ça. Le danger, c'était que les gens se disent « bon, mais c'est pas possible », etc. Ils ne rentrent pas du tout dans, le, dans la vie de ces personnages-là, mais je pense pas que ce soit le cas. Et donc, finalement, c'était pas... C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ça ne nécessitait pas une, de grosses explications psychologiques. Il a été accepté, il fait partie de la famille et on démarre là-dessus.
On ne perd pas de temps à expliquer la psychologie du doudou. Le doudou, il est là, il arrive, il se met sous le lit. Quand il écrase le chat, c'est assez drôle. Et puis voilà, les personnages se construisent et évoluent au fur et à mesure des pages et des petites planches. On va marquer une petite pause musicale. Vous avez choisi, alors moi je ne connaissais pas du tout,
oui, Billie Eilish. J'ai découvert il y a peu de temps et je suis, voilà, je l'écoute en boucle dans la voiture et je suis voilà, grand adepte de ses albums.
C'est une artiste anglaise, anglo-saxonne. Stéphane nous disait qu'elle ressemblait à Scarlett Johansson physiquement.
Oui, puis elle est toute jeune, hein, elle a 17 ans. Et elle est en train de percer le monde de la musique. Ouais.
Eh bien, merci Mick de nous faire découvrir Billie
Eilish.
Don't know you. Tore my shirt to stop you bleeding. But nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Like it like, say I like it like that, like it like that. Like it like, say I like it like that, like it like that. Like it like that, but nothing
once we've both said our goodbyes. Let's just let it go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home and I'm on my say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that.
Eh bien bonjour, nous sommes toujours sur l'antenne de FM+, avec Mick, qu'on reçoit aujourd'hui pour la BD pour enfants et adultes, Lily et Doudou Monstre, donc les deux personnages qui émaillent ce ravissant livre avec des couleurs très tendres et en même temps très enfantines. Vous pouvez nous parler du travail que Val fait sur les couleurs ?
Alors oui, c'est vrai qu'on est deux hein, sur cet album-là, donc avec Val, on s'est rencontrés, enfin on se connaissait déjà un petit peu parce qu'on s'est croisés plusieurs fois sur des festivals différents. J'avais créé les personnages de Lily et Doudou Monstre et j'avais commencé à inventer quelques pages, mais je suis, autant j'aime crayonner, autant j'ai toujours un petit peu de difficulté sur les ancrages. Et on s'est rencontrés comme ça, c'est-à-dire que lui m'a fait une proposition hein, sur des planches crayonnées, d'ancrer. Et moi, j'ai été séduit tout de suite et on a monté le projet après auprès des éditeurs par ce biais-là. Et Val, donc, effectivement, fait l'ancrage de tous les dessins de l'album et la mise en couleur. Et c'est vrai qu'il y a une vraie recherche qui a été assez longue, hein, qui a nécessité de multiples essais. Et là, le travail aussi de l'éditeur a été très important parce que ça a été vraiment un échange autour des couleurs jusqu'à ce qu'on atteigne vraiment le résultat qu'on trouve dans le livre maintenant. Mais ça a été le fruit de vraiment de plusieurs essais.
Parce que la petite fille, elle est très typée petite fille, hein, toute blonde, oui, avec un gros nœud rose dans les cheveux, mais en même temps, salopette, tennis.
Voilà. Petite fille pétillante et surtout qui... On a essayé qu'elle ne ressemble pas à des petites filles déjà existantes dans d'autres albums de bande dessinée.
Oui, elle n'est pas délurée, elle est encore très enfantine.
Oui, hein, oui, oui.
Elle n'est pas mal élevée, elle est pas. Non. Elle est vraiment, marrante, pétillante.
C'est ça.
Vraiment ça. Mm-hmm. Vous travaillez comment avec lui ?
Avec Val, alors au niveau de l'écriture, parce qu'on a terminé intégralement le scénario avant de commencer vraiment les dessins. Donc. Chacun cherchait de son côté des idées, on partageait. Là aussi, le travail de l'éditeur est important puisque c'est lui qui a le dernier mot sur les gags. Et puis ensuite, quand on est parti, donc on a commencé la partie dessin, je crayonne donc sur table lumineuse, puis c'est scanné, envoyé, et lui il fait l'ancrage après par informatique.
Quand on s'est rencontrés, on a vu que c'était pas du tout votre première parution. Vous avez écrit déjà et dessiné.
Oui, oui, ça doit être mon huitième album. Le premier chez Bambou. Les autres étaient édités chez Kramiek, Paquet, mais l'éditeur, oui, c'est Paquet, mais il a sorti une collection humour qui s'appelle Kramiek. Et voilà, là, il y a eu 7 albums chez lui.
Ils sont tous disponibles encore ?
Oui, oui, oui. Il y a une série qui s'appelle Michel Chienfidèle, qui a eu 4 tomes, où on retrouve là aussi un personnage un petit peu pato, etc. Et une série qui a longtemps été diffusée dans le journal de Mickey.
Et Val, il dessine aussi lui-même, pas pour lui-même ?
Alors Val est chez un éditeur belge qui s'appelle Bande à part, me semble-t-il.
Oui, parce qu'il est belge. Hein.
Oui, même s'il habite depuis longtemps en Lozère, hein, et il est d'origine belge, effectivement. Et voilà, il a fait des albums, mais plutôt des collectifs, avec un humour un petit peu plus trash, entre guillemets, un petit peu plus fluide glacial dans l'esprit.
Bah, il a un nom prédestiné quand même, hein.
Oui.
Valérian, c'est quand même.
Oui, oui, exactement.
C'est quand même très très typé BD. Hein.
Oui.
Il y a une complicité réelle entre vous deux? Vous avez beaucoup de plaisir à travailler
oui,
ensemble?
Oui, alors malheureusement, on ne se voit pas aussi souvent qu'on le souhaiterait. Mais en tout cas, sur cet album-là, vraiment, on a pris plaisir à travailler ensemble, à échanger. Et on continue, puisqu'on va faire des festivals où parfois on sera en commun, d'ailleurs, ensemble pour dédicacer. Et puis on continue à faire vivre la page Facebook du personnage, etc. Donc on continue d'échanger beaucoup.
On en parlera avant de se quitter, les différents lieux de rencontre qu'on peut conseiller à nos auditeurs. Mm-hmm. Sur la tranche, il y a un petit 1.
Mm-hmm.
Alors, après le petit 1...
on va croiser les doigts pour qu'il y ait un petit 2. Hein. Ça ne dépend pas que de nous, évidemment. Il va falloir que Lily et Doudou Monstre rencontrent son public.
Oui.
Et à ce moment-là, si l'éditeur nous donne le feu vert, on partira tout de suite avec plaisir sur un tome 2.
Dans la tête, il y a déjà plein d'histoires, de situations déjà.
Quand on crée des personnages comme ça, on s'attache. Et je pense qu'on a envie effectivement de leur trouver d'autres histoires, d'autres relations, etc., d'approfondir tout ça.
Au quotidien, vous notez quand vous voyez une situation, je sais pas, dans la rue avec des enfants de vos amis, à l'école, des situations comme ça, dites tiens, celle-là. Je vais bien en faire quelque chose.
Alors ça m'arrive, malheureusement je ne les note pas tout le temps. Alors quelquefois effectivement, et je le regrette parce que parfois j'oublie. Par contre là effectivement quand on travaille vraiment sur un projet, la moindre petite idée doit être notée parce que évidemment tous les gags ne sont pas retenus, donc il en faut beaucoup plus que ce qu'il y a dans l'album. Et c'est un travail de longue haleine, ouais.
Pour être un peu plus sérieux et nous adresser un peu plus aux parents, dans le dos du dossier de presse, il y a presque une préconisation. Donc, il parle d'un article, d'un site de psychologie.com qui explique la vie d'un enfant avec son doudou. Donc, toujours laisser votre enfant choisir son doudou.
Mm-hmm.
On n'a jamais imposé un doudou. Faut pas acheter parce qu'il nous plaît bien le doudou qui va. Faut que l'enfant aille vers le doudou pour créer cette relation fusionnelle qu'on retrouve entre Lily et doudou monstre.
Oui, le doudou, c'est vraiment ce qu'on appelle l'objet transitionnel, hein, c'est-à-dire donc un objet auquel l'enfant va s'attacher pour se rassurer, pour retrouver une sécurité. Et donc, il est très, très important pour l'enfant. Ce n'est pas juste une simple peluche avec laquelle il va jouer.
D'ailleurs, c'est arrivé à tout le monde d'acheter un doudou peluche très joli et de voir le môme retourner toujours vers son vieux bout de chiffon.
Exactement.
Parce que c'est ça qui c'est là-dedans.
Et ne pas vouloir qu'on lui lave.
Exactement, exactement. Donc, le doudou permet à l'enfant d'exprimer ses sentiments. Et comme vous dites, c'est un objet transitionnel pour les moments difficiles, avant de s'endormir, les séparations avec les parents, les situations tristes. C'est pour ça que les instits n'obligent pas à la maternelle de se séparer du doudou.
Non, non.
Il y a vraiment une acceptation du doudou par le corps enseignant.
Bien sûr.
C'est bien.
J'espère partout le corps enseignant.
Et donc, chose qui m'a étonnée, c'est l'enfant qui prend la décision de se séparer du doudou.
Oui, je pense qu'à un moment donné, il est suffisamment sécurisé, il intègre suffisamment de sécurité pour pouvoir s'en détacher et partir vers de nouvelles aventures. Hein. En ce moment, on parle beaucoup de la théorie de l'attachement. Hein. C'est un sujet très, très en vogue en ce moment et on rejoint vraiment ça. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant qui est suffisamment sécurisé va pouvoir aller explorer le monde.
Bien sûr, bien sûr. Bon, pour être tout à fait pratique, donc le livre est paru le 8, là, c'était tout récent, hein. Il sort des presses. Là, hein.
Absolument,
il sort des presses.
Il est tout chaud.
Il est disponible chez tous les libraires.
Partout, toutes les bonnes librairies, les FNAC et Cultura et autres...
Les petits libraires de quartier qui peuvent vous le commander s'ils ne l'ont pas en stock.
Bien sûr.
Donc c'est Lily et Doudou Monstre aux éditions Bambou Éditions par Mick et Val. Mm-hmm. Bien sûr, vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon et autres internet.
Mm-hmm.
Mais privilégiez vos petits libraires.
Oui.
C'est par eux que viennent. C'est eux qui savent donner le bon conseil. Et justement, autour de ce livre, il y a du conseil pédagogique aussi à donner.
Absolument.
Et à conseiller pour les parents. Mm-hmm. Vous avez un site? Une page Facebook, ont une page Facebook.
Oui, il y a une page Facebook, Lily et Doudou Monstre, qu'on peut suivre, aimer, où on met des dessins inédits, on met les dates des festivals où on sera, tout un tas d'informations autour de l'album et des personnages.
Il y a des enfants qui vous ont écrit, parce que sur la première page, il y a un dessin de Lily, mais est-ce qu'il y a des enfants? Vous avez des premières réactions d'enfants?
Alors, pas encore, parce qu'il est vraiment sorti que le 8 janvier, hein, donc c'est vraiment... tout récent, mais je languis maintenant de commencer les premiers festivals, justement, pour aller à la rencontre du public et voir les premières réactions, effectivement, des enfants lorsqu'on commencera à dédicacer les livres. Oui.
Ben, vous viendrez nous en parler pour le deuxième volume.
Ah, avec plaisir.
Plein d'histoires d'enfants à nous raconter. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, Mick, d'être venu nous présenter ce livre que je conseille vivement. Et vous allez pouvoir retrouver l'émission en direct, bien sûr, mais en podcast sur Radio FM+. Très bonne fin de journée.
Merci beaucoup Mick. Pour
à
votre
très bientôt.
Accueil.
Au revoir. Au revoir.